France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, nous avons rendez-vous avec un mécène. Alors il est que multimillionnaire, donc il n'a pas l'argent pour racheter des médias, mais il finance et il soutient les médias libres, l'accueil des réfugiés. Il s'appelle Olivier Legrain, un millionnaire de gauche. On va aller vérifier si ça existe là tout de suite. Bonjour, bienvenue Monsieur Legrain. C'est donc vous alors, ce mystérieux mécène.
Ah, mécène.
Je me réjouis de parler avec vous. Votre parcours est incroyable et vos idées m'intéressent.
Nous allons en discuter.
Allons-y.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Olivier Legrain, vous gagnez à être connu. Je suis ravie que vous ayez accepté cette invitation. Vous êtes multimillionnaire de gauche. Vous financez les médias libres et l'accueil des réfugiés. Vous avez été marqué par mai 68, alors vous avez longtemps été communiste, puis grand patron d'industrie, vous avez fait fortune. Et aujourd'hui, vous êtes principalement mécène et psychothérapeute. Autant dire qu'on ne va pas s'ennuyer pendant cet apéro. Et je vous le dis, ça m'a tourné, hein, c'est pour moi, hein, Olivier. Là, je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, j'ai bon, parce qu'on vous connaît peu, donc je ne voudrais pas me tromper.
Thérapeute.
Très bien. Olivier Legrain, alors, financer la gauche, est-ce que c'est pas un petit peu jeter l'argent par les fenêtres ?
Ça, c'est ma vision du monde. J'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. J'ai gagné beaucoup d'argent et je pense que dans la manière dont je fonctionne dans mes idées et dans ma vie, c'est pour le rendre à la société. Et effectivement, mes combats principaux sont autour de la liberté de la presse et des réfugiés. Je n'ai pas du tout l'impression de jeter l'argent par la fenêtre. Je pense qu'au contraire, je ne saurais pas trop quoi faire de l'argent que j'ai gagné si je n'avais pas des combats. J'ai quelque chose aussi très important pour moi, c'est agir. J'ai un besoin vital d'agir.
Je dois vous dire que ma question était quand même pleine de second degré.
Je l'ai interprétée comme ça.
Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu dans cette conversation. Je voudrais aussi savoir votre surnom dans la presse. C'est millionnaire de gauche, c'est pour ça que je me suis permise de vous définir comme ça, ce qui est forcément un peu cliché, mais il y a quelque chose qui vous embête le plus dans ce cliché ? Est-ce que ce serait millionnaire de gauche ?
De gauche, pas du tout. Millionnaire, ça ennuie fortement mes enfants, donc c'est plutôt ça, qui considèrent que c'est ma vie, c'est pas la leur. Donc, je m'y suis habitué.
Ah, on s'habitue, ouais.
On s'habitue,
j'ai bien l'impression.
On s'habitue.
Comment on passe de communiste à grand patron dans l'industrie? Vous avez travaillé, vous avez été numéro 2 de la branche chimie chez Ron Poulin, vous avez travaillé pour Lafarge.
Vous êtes bien renseigné, hein, c'est bien.
À quel moment ça a switché?
J'étais très jeune, hein, mai 68, j'étais un gamin, très fortement imprégné par tous ces événements. Et
vous étiez où à l'époque?
Au lycée Buffon, et beaucoup de choses ont démarré sur mai 68.
À Paris, donc.
À Paris. Maurice Clavel était professeur de philo, il a eu beaucoup d'influence sur les jeunes de ma génération qui étaient au lycée Buffon. Mais on est emporté par un courant. Moi, je suis un homme passionné qui aime agir. Et c'est le début de mes premières actions. Voilà. Il y a quelque chose de très beau dans le communisme. Hein. Il y a très beau dans les biens communs. Il y a être de gauche aussi, c'est lutter contre les inégalités dans la mesure où on peut. J'ai eu un parcours. J'aime bien diriger, j'aime bien...
Ah, voilà. Vous êtes un communiste qui aimait bien diriger.
J'aime bien le pouvoir, oui.
Ok. Mais ça ne m'explique pas, pour autant, comment vous êtes passé de,
du
communisme à des grandes industries, parce que vous dirigez...
Alors disons que ça fait partie de mes contradictions, j'en ai beaucoup. C'est peut-être la première dans l'évolution de ma vie.
Ouais. C'est facile, ça, comme argument, contradiction.
C'est la réalité, quand même, si on rentre un peu plus dans le détail. C'est sûr que tout ce qui s'est passé autour de Solzhenitsyn a mis du temps à me percuter, m'a quand même percuté, et je me suis rendu compte, j'étais quand même encore très jeune, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce à quoi je croyais. Et donc, j'ai basculé. Et puis, je pense qu'au moment où j'ai basculé, les gens qui étaient autour de moi m'ont aidé à basculer. Ils m'ont dit, retourne dans ton milieu bourgeois. Mais... ça s'est fait naturellement.
Vous êtes issu d'un milieu bourgeois. Votre famille, elle est dans quel corps de métier?
J'avais une mère qui était femme au foyer, comme on dit aujourd'hui. Et j'avais un père qui était polytechnicien et qui avait dirigé de l'industrie. Voilà.
Et vous-même, votre formation, c'est...
J'ai fait une formation mine et une formation à l'école de la statistique qui s'appelle l'ENSAE, qui est en fait l'école de l'INSEE.
Voilà. Les mines, donc. Les très riches qui s'impliquent dans le social, il y en a, évidemment, heureusement. Mais sur des dossiers comme les vôtres, les médias libres ou indépendants, l'accueil des réfugiés, j'ai l'impression que vous êtes bien isolé, que vous êtes l'un des seuls, voire le seul grand mécène. Comment ça se fait ?
Je pense que ce sont des combats vraiment politiques, et de plus en plus aujourd'hui. Quand on regarde la manière dont la société réagit à ce que les milliardaires font sur l'information et à la manière dont on accueille en France les migrants, au départ c'est un combat politique avant d'être un combat de mécène. Moi j'aime pas tellement le mot mécène parce que je me sens pas mécène. Mais on n'a pas trouvé tellement d'autres termes.
Vous soutenez...
Voilà, je soutiens des médias libres et je soutiens pas mal des associations qui accueillent des migrants aujourd'hui en France.
Ouais.
J'aime beaucoup agir. Agir pour la liberté de la presse, qui est quand même un des grands contre-pouvoirs dans une démocratie, et agir pour que, finalement, liberté, égalité, fraternité, qui sont des trucs auxquels je tiens énormément dans mon pays, qu'on puisse les mettre un peu en œuvre, c'est fondamental pour moi.
Oui, oui.
Donc c'est pas neutre non plus comme combat.
Ouais. Agir, vous dites agir, justement.
Être utile. Agir et en étant utile.
Très bien. Mais les Lagardère, les Bolloré, les Saadé, eux, ils rachètent des médias. Vous n'achetez pas des médias. Qu'est-ce que vous faites ?
De toute manière, moi, j'ai pas les moyens de racheter les médias.
Hein. Oh, je suis déçu.
Oui, je suis désolé.
Oh là là, mais qui m'a amené ce multimillionnaire qui n'avait pas les moyens de racheter des médias ?
Il fallait en choisir un autre dans la rue qui passait, mais moi, je suis désolé.
Voilà. Vous n'avez pas les moyens de racheter ?
Non, ouais. Et j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai envie que ces gens-là, qui sont des petits médias, aient des conditions d'accueil, puissent vivre ensemble, faire des enquêtes ensemble et porter une sorte de contre-pouvoir.
Alors, quels médias ?
Bon, je ne sais pas trop encore aujourd'hui, c'est pour 2027. Mmh. Voilà.
Mais attendez, 2027, il sera trop tard, Olivier Legrain ?
La mairie de Paris, ça a été compliqué, on vient de déposer le permis de construire, il faut l'obtenir, puis il faut faire des travaux.
Ouais. Votre idée, c'est une grande maison des médias libres.
Mmh.
C'est quoi, une colloque de médias de gauche ?
J'aimerais que ça soit un peu plus qu'une colloque ou qu'un coworking. J'aimerais qu'ils travaillent ensemble. J'ai toujours cru, j'ai vécu comme ça ma vie d'industriel, quand on met des sociétés ensemble, il se passe quelque chose.
Ah oui.
Même je pense que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le télétravail a ses limites. Il y a des gens, ils ont besoin de vivre ensemble. Et c'était un peu le concept au départ, c'est de mettre ensemble des médias multiples. Il y aura 350 postes de travail, on peut mettre du monde.
Mm-hmm.
D'ailleurs, s'il y a des problèmes sur France Inter, vous êtes la bienvenue dans la maison des médias libres.
Ah, merci.
Voilà.
Je note votre invitation généreuse. On va en parler justement de cette notion de liberté, parce que moi j'estime être libre sur le média. Vous vous sentez libre avec moi là ?
Complètement.
Ah bon, voilà. Donc,
vous êtes libre.
Ouais, ouais,
on est deux à être libres.
Ah, c'est très bien. Vous dites, mon expérience d'industriel montre que les gens travaillent bien ensemble. Et donc, si dans cette maison des médias libres, vous accueillez, vous hébergez Mediapart, Alternative Économique, par exemple Blast, tous ces médias-là.
Je ne pense pas que Mediapart viendra. Ils sont très bien où ils sont.
Là. Ouais. Mais voilà, vous accueillez les médias indépendants.
Mmh.
Et quelles sont les embûches que vous rencontrez alors ? Parce que c'est un très beau projet. La mairie de Paris est quand même ancrée à gauche.
C'est compliqué parce que c'était une sorte de gré à gré avec un particulier. C'est très rare. Ça, c'est quasiment jamais fait. Je ne suis pas une fondation, je ne suis pas un groupe industriel, je ne suis pas... Bernard Arnault, je ne suis pas François Pinault, je suis un pauvre petit millionnaire qui met une grande partie de son patrimoine dans un projet.
J'adore, on va garder vraiment cette séquence. Je suis un pauvre petit millionnaire. Oh, je vous aime déjà, Olivier. Oh là là là.
Il y a une déclaration d'amour en direct, c'est quelque chose.
Oh là là là, vous savez me parler. Oui, bien sûr, mais alors pourquoi ne pas faire une fondation ?
Moi, j'aime bien faire les choses moi-même. Fondation, c'est complexe. Je cherche absolument aucune défiscalisation de rien du tout. Fondation, il faut être protégé par des gens. Moi, je veux pas. J'ai un gros problème avec la hiérarchie, la protection.
Mmh.
J'aime bien assumer mes choix, les mener moi-même et assumer ma vie. Fondation et une sorte de couverture au-dessus, j'aime pas ça.
Ok. Bon, parce que là, si je résume, les milliardaires, ceux qui ont l'argent pour acheter des médias, hop, ils rachètent, ça pose aucun problème, ça se fait comme ça, en deux-deux.
Mmh.
Un monsieur tout seul, pauvre petit millionnaire, qui veut acheter un bien dans Paris pour héberger des médias libres...
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. On évoque, bien sûr, les Bolloré, Saadé, etc., où... Vous semblez
enfin, Bolloré et Saadé, c'est pas pareil pour moi.
Oui, non, mais, oui, alors ils ont chacun leur particularité.
Voilà, absolument.
Vous pouvez peut-être donner la différence entre Bolloré, Saadé et le nouveau qui arrive qui s'appelle Sterrin.
pour moi, Saadé, il a fait un certain nombre d'opérations, petit à petit, mais celui qui...
Saadé, il détient par exemple BFM.
Oui, oui.
Faut tout remettre pour nos auditeurs, pardon, parce que c'est vrai que...
Allez-y, c'est la lumière.
Non, mais il y a Bolloré, l'organigramme, et ouais.
Bolloré, ben là, je suis en train de lire un livre très bien qui s'appelle Le Péril Bolloré.
Ah oui, vous l'avez emmené. Voilà. Alors dites-moi, c'est qui les auteurs et le...
C'est une journaliste qui s'appelle... Je fais de la publicité pour elle.
Bah oui.
Je ne la connais pas, c'est une journaliste qui s'appelle Marie Bénilde.
Et c'est édité où ?
Et c'est édité à La Dispute, que je ne connais pas non plus, okay. Mais c'est très bien.
Oui, ouais, La Dispute, oui, ouais. Alors, donc, ils ont chacun leur
partie. Bolloré, c'est tout un système qu'il a mis en place. Ce terrain entre dans le système Bolloré. Mais bon, il y a un sociologue américain qui disait, il y a des années, je ne me souviens plus de son nom, que la droite a le pouvoir et l'argent, et la gauche, pour lutter contre la droite, il faut qu'elle ait le peuple avec lui, la créativité et l'union.
Bolloré défend... La gauche n'a pas tout ça pour l'instant.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Bolloré, il suit un système. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique. Et je trouve que la gauche est beaucoup trop dogmatique. Il y a 13 millions de Français qui ont voté pour le Front National à la présidentielle. Ils ne sont pas tous des fascistes ou des racistes. C'est complètement ridicule de dire ça. Donc, il y a un système Bolloré. Et il faut qu'il y ait des gens qui se battent contre ce système Bolloré. Moi, pauvre petit millionnaire, c'est ce que j'essaie de faire.
Oui. Vous connaissez bien ce milieu, Olivier Legrain, ce milieu des oligarques, donc, parce qu'on en a aussi.
J'ai jamais rencontré Vincent Bolloré de ma vie. J'ai fait fortune dans un monde où il y a des gens qui avaient de l'argent, oui.
Qu'est-ce que vous avez observé de ce système, des gens qui avaient de l'argent ?
Ils sont pas à gauche. C'est-à-dire que, je sais pas, je pense qu'ils sont... quand on crée de la valeur dans une entreprise, mm-hmm. il faut jamais oublier que cette valeur, avant de la redistribuer, elle est créée par les ouvriers. Dans un monde qui a été le mien, qui était un monde industriel. Et je trouve que la valeur, elle est extrêmement mal répartie. Mmh. Il faudrait avoir une autre répartition de la valeur. Il y a des retraites qui sont scandaleuses. Mmh. On a parlé des premiers de corvée, on les a traités plus bactères aujourd'hui, on n'a rien fait. Et bien tout ce genre de choses, il faudrait y réfléchir et le voir d'une manière globale. On peut pas tout faire parce que la France est un pays qui a un endettement très fort, mais il y a des priorités à choisir. Moi, je suis un patron d'entreprise, sa responsabilité, c'est les gens qui travaillent avec lui. C'est la stratégie, l'organisation et le fait que les gens soient heureux dans son entreprise. Ben, moi, je voudrais que la gauche aide les gens à être plus heureux en France.
Et vous étiez quel type de patron, alors ?
C'est pas moi qui peux répondre à ça.
Vous aviez quand même, en tant que patron, une méthode de management, des valeurs...
On disait que j'étais humaniste, voilà, et que j'étais pas une brute épaisse.
Mais ça se traduit comment, dans les faits ?
J'essayais d'associer le maximum de gens aux décisions. Mm-hmm. J'essayais de faire des...
Ça, c'est compliqué, hein.
Oui, mais ça prend du temps, mais c'est important. Mm-hmm. J'essayais que la valeur soit le mieux répartie possible, avec toutes les contraintes qui existent dans l'entreprise qu'on ne possédait pas, puisque ce n'était pas la nôtre. On l'avait racheté en partie avec des fonds d'investissement et des banques.
Mm-hmm. On a tous envie de savoir comment vous avez fait fortune, parce que vous avez fait ce qu'on appelle un LBO, vous pouvez le dire en anglais ce que c'est.
Leverage buyout.
Moi, j'ai l'impression que c'est un énorme cafouillage.
C'est un rachat d'une entreprise par ses salariés. Alors, le nombre de salariés, ça dépend des patrons, avec l'aide de fonds d'investissement et les banques. Et pour expliquer, parce qu'il y a eu des articles qui disent n'importe quoi, c'est comme si vous achetez un pavillon qui coûte, disons, 100 000 euros. Vous mettez 10 000 euros d'apport propre, votre argent, et vous empruntez 90 000 euros pour prendre des ordres de grandeur. Quand vous revendez votre pavillon, s'il y a le métro, le RER qui arrive à sa porte, le pavillon, au lieu de voir 100 000 euros, il vaut 200 000 euros. Vous prenez 200 000 euros, vous enlevez la dette de 90 000 euros, vos 10 000 euros sont devenus 110 000 euros. Voilà.
C'est grâce au RER que vous avez fait fortune, quoi.
Et c'est grâce au RER que j'ai fait fortune, voilà.
Je comprends mieux.
Il faudrait expliquer ça à toute la gauche. Grâce au RER, on peut faire fortune.
Oui, parce que la gauche estime que c'est pas moral de faire ça parce qu'il y a un risque qui est pris, c'est ça ?
C'est considéré comme totalement immoral. Je trouve que ce sont des opérations qu'on a faites pendant 15 ans qui ont très bien marché, mais c'est un risque. Mais c'est au patron d'assumer les risques.
Ouais. Mais alors, si avec quelque chose de considéré comme immoral, vous faites fortune et puis vous redonnez à la gauche et aux réfugiés, etc., est-ce que ça devient moral ?
Mais moi, je ne pense pas que ce que j'ai fait est immoral. On peut dire que c'est du capitalisme sauvage. Ça, tout le monde est libre de dire ça. Mais je pense que j'aurais jamais imaginé faire ce que j'ai fait. Ça s'est trouvé à un moment donné de ma vie. Et je suis très content de l'avoir fait. On a encore énormément de liens entre nous. C'est 15 ans de ma vie magnifique. Donc je ne regrette absolument rien. Et je regrette absolument pas la manière dont on l'a fait.
Vous avez utilisé un levier du capitalisme sauvage pour le rendre un peu plus vertueux.
On peut dire ça comme ça, si on veut.
J'ai eu du mal à le dire.
J'ai bien vu que ça a été très compliqué pour que ça descende de là.
Capitalisme vertueux, j'y crois pas encore des masses, mais je demande qu'à être convaincu.
Mais pas obligatoirement un capitalisme vertueux. Assumer le fait qu'on est dans une économie capitaliste et qu'il y a des entreprises, qu'il faut que la gauche l'assume. À force de le rejeter, on revient sur la citation du sociologue américain. Le peuple, il est là. Et les gens, ils travaillent le matin. De la même manière, la France est un des pays au monde où il y a le plus d'accidents de travail avec arrêt ou mortel. C'est inacceptable. La responsabilité d'un patron, c'est que les gens qui travaillent dans son entreprise reviennent pas mutilés et vivants le soir. On en parle très peu de ça.
Olivier Legrain, vous êtes issu d'un milieu bourgeois. Vous pourriez vivre confortablement avec vos multimillions. Alors, qu'est-ce qui fait que vous agissez là, vous avez l'air d'être David contre Goliath, alors que vous pourriez être les doigts de pied en éventail au bord d'une piscine.
Mais c'est pas mon style, c'est un peu court. D'où ça vient?
Pourquoi c'est pas votre style? C'est ça que je veux comprendre.
C'est la psychanalyse, en direct. Là. Je ne suis pas constitué comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont constitués d'une manière. J'ai pas envie de mettre des tonnes de soulage, j'aime pas jouer au golf, c'est bizarre que vous m'ayez pas posé la question si je suis de la gauche caviar, je déteste le caviar.
Vous savez, moi je suis pas toujours dans le cliché.
Vous attendiez. C'est un coup bas.
Voilà. Vous êtes déçu que je vous ai pas posé la question gauche caviar.
Je fais l'aller-retour moi-même. Là. Voilà. Non, je suis comme ça. Et l'injustice me choque énormément. Alors peut-être que j'ai été élevé comme ça.
Bon, par exemple, vos parents jouaient pas au golf non plus.
Non, pas du tout.
Il y avait pas de soulage à la maison.
Non.
Donc, il y a un héritage familial aussi de vivre bourgeoisement, mais pas
de manière ostentatoire.
Voilà.
Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de m'exprimer à la radio. Jamais mes parents n'auraient fait ça.
Est-ce que dans votre histoire familiale, il y a quelque chose qui fait que vous soyez particulièrement sensible aux réfugiés, aux migrations, et que vous les souteniez, parce que c'est un combat qui est difficile aujourd'hui. Non seulement vous financez, vous aidez, mais en plus, quand on aide les réfugiés, on va au-devant de gros ennuis dans la France de 2025.
La réponse est oui. D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont là. Il faut les traiter le mieux possible. Je trouve qu'on les traite pas bien. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'occuper non plus des gens qui, en France, vivent mal. Je trouve qu'on s'occupe pas bien des réfugiés. Mais c'est pas un discours pour séparer les réfugiés des gens qui ont énormément de difficultés à vivre.
Et vous répondez pas à ma question. Je voulais vous demander... D'où ça vous venait?
Ah, d'où ça me vient?
On a envie de vous connaître un tout petit peu. Je vois bien que vous ne vous livrez pas des masses.
D'où ça me vient? Je pense que c'est l'éducation que j'ai reçue. Je sais pas, je pense que ce côté collectif...
Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, j'ai lu dans
des
interviews. Je préférais que ça vienne de vous, je ne veux pas vous forcer. Mais j'ai lu qu'une partie de votre famille avait été déportée.
Voilà, c'est exact, oui. Alors, est-ce que ça vient de ça? En tout cas, ça a certainement marqué mon enfance et mon adolescence. Oui. C'est vrai, je ne refuse pas de vous répondre. J'ai ça en moi. J'allais dire, c'est assez orgueilleux. Einstein avait le don des maths. Voilà. Moi, j'ai un sens du collectif. Alors, il y a un côté psychanalytique là. J'aime les gens. J'ai une empathie naturelle vis-à-vis des gens. Alors, est-ce que ça vient de ce que vous dites? Peut-être que c'est au fond de mon être. Et j'aime bien être aimé. Mais j'aime d'abord les gens. Et j'ai envie que les gens vivent dignement. Les réfugiés ne vivent pas dignement, les réfugiés ou les migrants, les premiers de corvée ne vivent pas dignement. Il faut trouver un système dans le capitalisme, parce que je pense que c'est une certaine fuite en avant de refuser le capitalisme et c'est dit on verra ça dans 50 ans. Moi je ne suis pas là pendant 50 ans, vraiment pas. Je ne crois pas à la réincarnation, donc là il faut faire des choses.
Mais dites donc, Olivier Legrain, il doit quand même y avoir beaucoup de gens qui vous appellent tous les jours pour vous gratter de la thune.
Oui, c'est vrai. C'est exact. Beaucoup de gens me le reprochent, d'ailleurs. C'est-à-dire de ne pas avoir une stratégie. Alors là-dessus, autant j'ai des stratégies sur pas mal de choses, là, je n'ai pas de stratégie.
Mais alors, quel est votre objectif? Par exemple, si on reprend la maison des médias libres.
C'est un contre-pouvoir.
Votre objectif, c'est ça,
c'est le contre-pouvoir.
Okay. Et là,
c'est un contre-pouvoir, comme la liberté de la presse.
Sur la liberté de la presse, à quel moment ça a déconné? Est-ce qu'on a des dirigeants qui n'ont pas assez protégé la presse?
Oui, je pense que oui. On a laissé des empires se construire, petit à petit.
Pourquoi? Par flemme ou par intérêt? d'après vous.
On peut dire qu'il y a des intérêts. Je ne les mesure pas tous. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de milliardaires de gauche, à ma connaissance.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée avec Olivier Legrain. C'est un pauvre petit millionnaire, comme il le dit. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Multimillionnaire de gauche, c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous financez, soutenez les médias libres, l'accueil des réfugiés. Et on poursuit cette conversation avec vous.
J'ai dit pauvre petit millionnaire par rapport au milliardaire.
Oui, bien sûr.
Il faut toujours citer le texte in extenso. Ouais.
Et justement, c'est l'occasion, si vous nous rejoignez, de réécouter le début de l'émission pour comprendre comment on en est arrivé là, bien sûr. Le rapport de la gauche à l'argent est très compliqué.
Horriblement compliqué.
Ouais.
Et le rapport de la gauche à l'argent est épouvantablement compliqué. Et Hollande ne l'a pas facilité avec ses déclarations, pour moi, stupides.
Quoi, l'ennemi, c'est la finance, c'était ça ?
Pour prendre Emmanuel Macron comme ministre de l'économie derrière, enfin, franchement, c'est des paroles qui restent pour l'histoire et qui sont complètement... C'est justement ce que je déteste, c'est des paroles qu'on donne dans un meeting pour... voilà, j'aime pas ça du tout. La gauche, elle a un problème avec l'argent, mais elle a encore un problème beaucoup plus grave avec l'entreprise, avec le capitalisme. Je redis ce que je disais tout à l'heure, avant de redistribuer, il faut créer de la valeur. Et ça, on ne fera pas changer d'avis là-dessus. Et je pense que la gauche a un très gros problème et qu'imagine toujours une entreprise comme l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans la plupart des cas, on n'en est plus du tout là. Et pareil, du côté du pouvoir du bloc central, la start-up nation, ça n'a rien à voir avec l'industrie. Et la réindustrialisation de la France, ça va être très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait deux secondes de géopolitique, il y a clairement un empire chinois, un empire américain, un empire russe qui essaye de redevenir un empire, et l'Europe. Et l'Europe est assez divisée. Et si on parle de réindustrialisation, il faut le faire au niveau européen. Pour moi, c'est absolument vital. C'est encore un autre problème dans la gauche.
Oui.
Alors, on a beaucoup de problèmes avec la gauche. On a le problème de l'argent, on a le problème de l'entreprise, et on a le problème de l'Europe. Ça fait beaucoup.
Mais ce problème de l'argent et de la gauche, c'est quand même une clé, non ? Dans un monde d'argent...
Oui, mais je pense que le truc plus grave pour moi, la gauche encore, elle passe, c'est l'entreprise. C'est de dire l'entreprise... les valeurs de l'entreprise, alors que dans une entreprise, quand elle fonctionne bien, vous avez de l'organisation, de la stratégie, et on fait dans une entreprise. Et on regarde ce qu'on a fait. Et il n'y a pas d'incantatoire dans une entreprise qui tourne bien.
Peut-être qu'il y a des mauvais exemples d'entreprises, parce qu'on en a
bien
tous les
sûr.
Jours.
Comme, oui, il y a des mauvais exemples de journalistes, il y a des mauvais exemples de médecins, il y a des mauvais exemples d'êtres humains, il y a des mauvais exemples d'entreprises, bien sûr.
Et donc, quand vous rencontrez des responsables de gauche ou des élus, parce que j'imagine que vous leur parlez, puis c'est important de se parler.
Quand ils veulent bien parler à un petit multimillionnaire.
Hein. Ah, il y en a, ils ne veulent pas vous parler ?
Vous dites qu'ils ont des problèmes avec l'argent, donc...
Parce que vous êtes multimillionnaire, ils ne veulent pas vous parler.
L'argent, ça donne toujours l'impression à la gauche que l'argent va les acheter.
Mais donc, c'est eux qui payent l'addition au resto. Ils disent, on fait une addition séparée.
Non, on répartit les choses correctement. Ouais. Hein.
Mais même là, c'est problématique. C'est-à-dire que pour rencontrer certains représentants de gauche, c'est déjà un obstacle.
De moins en moins, parce qu'on se connaît de mieux en mieux.
Ah.
Voilà.
Faut les apprivoiser. Et il faut vous apprivoiser aussi. C'est un monde sauvage, j'ai l'impression. Qui vous soutenez ? Est-ce que vous soutenez Place Publique ? Est-ce que vous soutenez les Verts ? Est-ce que...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde arrive à trouver un équilibre. Donc, je parle au maximum de gens pour essayer de trouver quelque chose. Après, pour moi, c'est compliqué parce que là-dessus, moi, je suis assez catégorique. Et quand j'ai une idée dans la tête, j'ai du mal à y renoncer. Gagner une présidentielle, si on parle de ça, c'est une incarnation. C'est une vision pour le pays. Donc, une stratégie. Et ensuite, c'est un programme de gouvernement. Et un programme de gouvernement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça se construit en amont. Et au moment où vous devenez pilote de votre, voiture de Formule 1, comme ça on ne donne pas de marque, vous avez appris, vous êtes entraîné pour les différents scénarios auxquels vous allez être confronté. Évidemment, on ne peut pas prévoir la guerre en Ukraine, mais on peut avoir un plan qui fait que s'il y a un événement comme la guerre en Ukraine, le plan est modifié, mais le plan, il continue. Quand je parlais tout à l'heure des inégalités, comment on trouve un équilibre entre le monde industriel, préparer demain, les défis écologiques, les défis sociaux, c'est énormément de questions qu'il faut se poser. Et ça ne sert à rien, pour moi, des grandes phases incantatoires.
On ne saura pas si vous aidez le PS ou les Verts ou Place Publique.
Non, bah je connais du monde dans tout ce monde-là. Mm-hmm. Mais ce n'est pas moi qui vais faire en sorte que s'ils ne veulent pas se mettre ensemble, ils ne se mettront pas ensemble. Je n'ai pas ce pouvoir.
Et sur l'écologie, parce que là, en homme de gauche, j'imagine que vous êtes sensible quand même aussi. Puis de toute façon, normalement, l'écologie, c'est ni de gauche ni de droite. Hein, mais numéro 2 de la branche chimie de Rhône Poulenc.
Ah, j'en ai fait de l'écologie, là. C'est ça que vous voulez me dire?
Je me dis, est-ce qu'il y a un moment où vous avez une prise de conscience ou ça fait partie de vos contradictions?
Je pense que ça fait partie un peu de mes contradictions. Maintenant, je vois ce qui se passe dans le pays. Dans ma vie d'industriel, j'ai défendu des produits qu'au moment où je les ai défendus, étaient considérés comme des produits extraordinaires. Et aujourd'hui, on les considère, pour certains, comme cancérigènes. Donc aussi, il faut toujours ramener...
Le 11, c'est les scientifiques, quand même.
Oui, mais je veux dire, on ne le disait pas il y a 30 ans. Mmh. Et donc, il faut toujours ramener les choses au moment où ça se passe. Et pas faire des procès d'intention à un moment donné.
C'est-à-dire que vous vous rendiez pas compte à l'époque de...
Personne n'en parlait. Ouais. C'est Robert Badinter qui disait à Laura Adler, je crois, sur une émission, quand elle attaquait, ou les gens commençaient à attaquer Jefferson, il est quand même celui qui a inventé la Constitution aux États-Unis. Oui, il avait des esclaves. Et tout le monde avait des esclaves à ce moment-là. Il aurait pu ne pas en avoir. Dont acte. Ouais. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'était différent. Ce qui est, dans un des livres que j'ai amené, il y en a un auquel
j'ai amené plein de livres.
2050, pourquoi un monde sans carbone est presque impossible. Les scénarios économiques disent que ça va être extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il faut s'attaquer aux difficultés sociales dans lesquelles on est aujourd'hui. Il faut s'y attaquer vraiment. Et il faut construire les investissements, mettre en place ce qu'il faut pour préparer et faire une différence entre ce qu'on appelle les frais de fonctionnement et les investissements. C'est-à-dire les frais de fonctionnement, c'est ce qui fait tourner... Les hôpitaux, les écoles, et puis les investissements pour préparer le monde futur, c'est autre chose. C'est quand on investit dans le nucléaire ou qu'on investit pour les énergies renouvelables, on investit pour les générations futures. Quand on donne une augmentation de salaire à un prof ou à une aide-soignante, on vit dans le monde d'aujourd'hui.
Donnez-nous les références du livre, on en profite.
J'ai fait de la pub. Oui, il paraît qu'il est très connu.
Pour des livres, Olivier Legrain, vous pouvez faire de la pub quand même.
Alors, je fais de la pub. Ce que je suis en train de lire en ce moment, Pourquoi un monde sans carbone est presque impossible, de Vaclav Smil, qui, d'après ce que j'ai compris, est une grande référence dans le monde des écolos. La haine des fonctionnaires, c'est très intéressant, la haine des fonctionnaires. Parce que
qui a écrit ça?
Julie Gervais, Claire Lemercier, Winnie Pelletier, aux éditions Amsterdam, qui sont très bien. Là, c'est très intéressant parce qu'ils analysent très bien tout le problème des fonctionnaires. Toutes les couches qu'il y a, peut-être en trop, parole que la gauche ne supporte pas. Et je pense, par contre, on manque de fonctionnaires opérationnels qui sont sur le terrain. Et on manque d'aides-soignants, on manque d'infirmières, on manque probablement de gens dans les villes. Mm-hmm. La dématérialisation dont on parle beaucoup, elle ne touche pas uniquement que les vieux. Mm-hmm. Elle touche également beaucoup de jeunes. Le péril Bolloré, on en a parlé.
Ouais.
Marie Bénil, journaliste, je suis en train de lire. Et alors, dans mes moments de folie, je lis Éloge de l'émeute. Car c'est assez extraordinaire parce que finalement, une émeute, il se passe des choses dans des manifestations.
Oh, dites donc.
Et, finalement, je vous laisse donc le Courrier International.
Mais oui, merci. Vous m'avez dit, j'aime bien offrir les journaux que j'ai déjà lus. Et donc, j'ai entre les mains le Courrier International, que je lis régulièrement, mais je n'avais pas ce numéro. Donc, je vous remercie.
Il vient de sortir. Hein.
Ouais, sur l'aide au développement, tout réinventé. Voilà. Dites donc, vous lisez énormément. Quand est-ce que vous publiez un livre, vous?
Bientôt.
Olivier Legrain. Ah, c'est
bientôt.
Vrai?
Bientôt.
Ah. Alors, j'ai mis le doigt dessus. Qu'est-ce que vous allez publier? Vous pouvez nous en toucher un mot ou pas?
Non. Vous savez, vous connaissez ce monde mieux que moi, que je découvre, donc je ne peux rien vous dire.
Mais vous êtes trop mystérieux, moi j'ai besoin de concret. Moi je sais que vous aimez agir, vous l'avez dit. Agissons, dites-nous le titre, la date de sortie. On a envie de vous lire, Olivier Legrain.
Avec Vincent Hédin.
Ah, donc vous avez coécrit ce livre avec Vincent Hédin.
Il sort le 14 mai aux éditions Payot. Sauver l'information de la mainmise des milliardaires.
Oh, et vous alliez pas me le dire, ça. C'est quand même fou. 14 mai chez Payot. Olivier Legrain, comment est-ce que on devient thérapeute? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de devenir thérapeute? Vous avez un cabinet, vous avez une patientèle.
Je trouve que j'ai cette chance d'avoir un certain nombre de dons dont j'ai hérité. J'ai hérité de la chance d'avoir de l'argent, j'ai hérité de cette empathie vis-à-vis des gens, et j'aime bien aider les gens. Alors on revient sur ce que je disais à un moment, j'aime bien qu'on aime et j'aime bien aimer. Donc c'est un mélange complexe. Et j'ai l'impression que quand on est thérapeute, on aide les gens, on aide les couples, on aide les différents. Parce que je suis à la fois psychanalyste, psychothérapeute, coach et médiateur. Et donc c'est quatre genres de population fait que ben, y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Et j'essaye de m'occuper le mieux possible d'eux. Mmh. Puis il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que quand vous êtes thérapeute, vous vous soignez aussi en soignant vos patients. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh. Je fais ce métier depuis 10 ans et je suis très très heureux.
Et qu'est-ce qui serait le plus efficace, une thérapie de groupe pour la gauche ou bien de l'argent ?
Thérapie de groupe pour la gauche, c'est une phrase de François Ruffin.
Ah bon, c'est vrai ?
J'ignorais. Je sais pas.
Les deux.
Je reviens en dehors. Oui, probablement. Après, pour faire une thérapie, il faut que tout le monde soit prêt à aller en thérapie, ce qui ne me semble pas une évidence absolue aujourd'hui dans la gauche. Et puis, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois à une incarnation, à un programme financé et à un discours. Il faut faire rêver les gens. Je ne sais pas pour l'écologie punitive ou pas punitive, ça, je trouve ça ridicule. Mais il faut que les gens aient l'impression que derrière l'incarnation, il se passe quelque chose. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore la martingale pour 2027.
Olivier Legrain, merci beaucoup.
Merci,
Charlie. Je vous laisse retourner à Neuilly. Alors, vous habitez Neuilly.
Ah oui, quartier bourgeois.
Ouais,
L'émeute à Neuilly, hein, ça promet.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand vous rentrez à Neuilly avec le bouquin Éloge de l'émeute, emballez-le dans le Figaro.
J'ai un grand sac pour le protéger. Ah. Oui.
Vous avez un sac de Black Bloc.
Vous croyez ?
Oui, tout noir comme
ça. Je ne sais pas, il est noir. Mais oui, je ne sais pas, j'aime beaucoup.
Ainsi s'achève Bistroscopie, dont vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur l'application de Radio France. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard, réalisatrice. Merci à Rodolphe Meunier à la documentation, à Marc Garvenès à la technique, ainsi que Loïs Moreau au mixage. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20.